Bienvenue au quatrième amphi de physique statistique intitulé Thermodynamique statistique. Cet amphi est constitué de quatre parties. Nous commencerons par discuter de l'indiscernabilité des molécules du gaz parfait et de ses conséquences pour le dénombrement. Puis, nous aborderons la notion d'entropie à la lueur de la théorie de l'information. Ensuite, nous généraliserons la notion d'équilibre à des systèmes échangeant des particules, notion d'équilibre osmotique et construction de la notion de potentiel chimique. Enfin, nous verrons en quoi ces différentes idées nous permettent de retrouver les concepts de la thermodynamique. Je reviens tout d'abord sur la notion de fonction de partition, Z égale somme des exponentielles moins bêta EI, somme effectuée sur l'ensemble des microétats petit i, EI étant l'énergie de chaque microétat, et bêta, la température statistique égale à 1 sur 4. Nous avons vu dans le précédent amphi une propriété importante, à savoir la factorisation. Grand Z s'écrit comme le produit des fonctions de partition, Z alpha, de chacune des composants constituant le système. Nous avons par ailleurs vu que dans le cas de N composantes identiques et discernables, tels que des macromolécules, des modes de vibration d'un solide ou encore des moments magnétiques, la fonction de partition grand Z s'écrit comme petit z à la puissance grand N. Nous nous intéressons maintenant à la situation de composantes indiscernables telles que les molécules de gaz parfait. En effet, ces molécules peuvent se recouvrir. Du point de vue de la mécanique classique, on peut suivre la trajectoire de chacune des molécules. Mais du point de vue de la mécanique quantique, lorsque deux molécules se rapprochent au point d'entrée en collision, on ne sait plus dire à l'issue de la collision quelle est chacune des deux molécules. Ces molécules sont fondamentalement indiscernables. On se pose la question des conséquences sur le dénombrement des microétats et ainsi sur le calcul de la fonction de partition. L'effet de l'indiscernabilité des particules quantiques a été discuté par Pauli dans les années 1920. Considérons une assemblée de grand N particules occupant des états quantiques grand A, grand B jusqu'à grand Z. Vous avez ici un schéma de distribution de ces particules sur les états quantiques. Considérons maintenant l'effet d'une permutation grand P sur ces grand N particules. On se retrouve avec une autre répartition des particules sur les états quantiques. Wolfgang Pauli nous dit qu'il s'agit du même état quantique, ce qui veut dire que dans le dénombrement des microétats, il faut considérer qu'il s'agit strictement du même microétat. Le nombre de permutations des grand N particules est égal à factoriel N. En conséquence, la fonction de partition grand Z est égale à petit z puissance grand N divisé par factoriel N pour ne pas compter deux fois chacun des microétats. Plus largement, Wolfgang Pauli a montré qu'il existe deux types de particules quantiques ou encore quantons. On a d'une part les bosons dont le nombre par état quantique est quelconque, de 0 à l'infini, et les fermions dont le nombre par état quantique est égal à 0 ou 1. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Les conséquences en termes de dénombrement peuvent être illustrées sur la situation simple suivante. Considérons un système à 3 états possibles pour 2 particules figurées en vert et en rouge. Combien de configurations sont possibles? Considérons tout d'abord le cas où les particules sont discernables. Dans ce cas, le nombre de configurations est de 9, dont 3, c'est-à-dire un tiers, correspondent à des situations où les particules se trouvent dans le même état quantique. Si maintenant les particules sont indiscernables, on a d'une part le cas des bosons qui ne vérifient pas de principe d'exclusion, auquel cas le nombre de configurations est de 6, dont 3, c'est-à-dire la moitié, où les particules sont ensemble sur le même état quantique. Et par ailleurs, nous avons la situation des fermions qui vérifient le principe d'exclusion. Le nombre de configurations possibles est alors de 3 et il n'y a aucune configuration où les fermions sont ensemble. On peut ainsi considérer que les bosons ont un comportement grégaire, au sens où c'est pour les bosons que la proportion d'états avec des particules ensemble est la plus forte, et qu'au contraire, les fermions ont un comportement individualiste, puisque l'on a un principe d'exclusion. Je vais appliquer ces idées d'indiscernabilité à la discussion d'un gaz parfait. Un tel gaz est constitué de molécules qui sont des composantes indépendantes, puisqu'elles n'ont pas d'interaction, identiques et indiscernables, comme nous venons de le discuter. En conséquence, la fonction de partition du gaz parfait, grand Z, est égale à petit z à la puissance grand N sur factoriel N. La fonction de partition pour une molécule est égale à la somme sur I des exponentielles moins bêta EI. I, c'est un micro-état à une particule, c'est la donnée de la position R et de la quantité de mouvement P. L'énergie epsilon I se restreint à une énergie cinétique P carré sur 2m. Comment faire la somme sur les micro-états? Ce n'est pas une somme discrète, c'est une somme continue sur les positions et les quantités de mouvement. Les positions sont quelconques à l'intérieur du volume V. La quantité de mouvement est quant à elle absolument quelconque. Mais pour respecter l'aspect dénombrement, on doit normaliser cette double intégrale par un volume dans l'espace des configurations RP, volume appelé ici oméga. Sans rentrer dans le détail, la mécanique quantique, à travers la relation d'incertitude de Heisenberg, nous dit pour une particule selon une dimension que le produit de delta x, l'incertitude sur la position, par delta p, l'incertitude sur la quantité de mouvement, est de l'ordre de h bar au minimum. Eh bien, sans démonstration, on montre que le volume de l'espace des phases pour un micro-état est donné par la valeur petit h pour une particule à une dimension et à trois dimensions par petit h au cube. En conséquence, la fonction de partition petit z pour une molécule s'écrit 1 sur h cube fois la double intégrale sur la position et sur la vitesse de exponentielle moins p carré sur 2mkt. L'intégrale sur la position se fait de façon triviale. L'intégrale sur la quantité de mouvement peut être factorisée en une intégrale sur les trois directions x, y et z. Et il apparaît l'intégrale d'une gaussienne dont on connaît le résultat. Et finalement, on obtient l'expression suivante pour petit z. Nous allons introduire la notion de longueur d'onde thermique directement liée à la relation de De Broglie entre la longueur d'onde et la quantité de mouvement, lambda égale h sur p. Pour une particule d'énergie E, on a donc une longueur d'onde associée qui est égale à h sur racine de 2 petit m fois grand E. Si l'énergie de la particule est l'énergie thermique, on a donc lambda égale h sur racine de 2mkt. On introduit le facteur pi par commodité et on définit ainsi la longueur d'onde thermique. Celle-ci, pour une molécule de gaz caractéristique et à la température ambiante, est de l'ordre de l'angström. On obtient ainsi une expression très simple de la fonction de partition du gaz parfait, grand Z égale 1 sur factoriel grand N, V sur lambda cube puissance grand N. Revenons à la distribution de l'énergie. Nous avons vu dans l'amphi précédent que P de E peut s'écrire comme le produit du facteur de Boltzmann, exponentiel moins bêta E, par le nombre de micro-états W de E, ce qui donne lieu à un pic avec une valeur moyenne et un écart type. Nous avons vu aussi qu'on peut aborder le problème à l'aide de la probabilité des micro-états, et ainsi que la valeur moyenne de l'énergie somme des pi EI peut s'écrire avec l'expression des pi, et finalement, valeur moyenne de E peut s'écrire à l'aide de moins dérivé de log de grand Z par rapport à bêta. De la même façon, on peut calculer l'écart type au carré, valeur moyenne de E carré moins valeur moyenne de E au carré, et tout calcul fait, on s'aperçoit que c'est égal à la dérivée seconde de log de Z par rapport à bêta. Appliquons ces idées au gaz parfait. Pour ce dernier, on connaît donc la fonction de partition. On trouve que valeur moyenne de E est égale à 3/2 de nkt et delta E carré s'identifie à 3n sur 2 kt carré. En particulier, la fluctuation relative d'énergie, delta E sur valeur moyenne de E, est en 1 sur racine de 2n sur 3. Quand grand N tend vers l'infini, la fluctuation relative d'énergie tend vers 0. Nous allons maintenant construire une entropie statistique plus générale que celle de Boltzmann. Elle s'appelle l'entropie statistique de Gibbs. Nous sommes dans une situation où les micro-états ne sont pas équiprobables, comme dans le cas d'un système isolé. Ils sont a priori quelconques et l'on cherche à quantifier le manque d'informations sur l'état microscopique du système. Pour cela, on va construire une entropie S fonction des probabilités PI, sous la forme d'une somme sur tous les micro-états de PI fois une fonction I de PI quantifiant le manque d'informations sur le micro-état I. Nous allons cheminer à la lueur des considérations qui ont été menées en théorie de l'information dans les années 1940. Considérons une source qui émet des symboles, ici ABCD, avec des probabilités P de A, etc. Plus généralement, on a grand N symboles avec des probabilités PN. Comment peut-on quantifier l'incertitude sur le prochain symbole émis par la source ? Eh bien, ce problème a été étudié par Claude Shannon en 1948 dans un article très célèbre appelé « Mathematical Theory of Communication ». Shannon a donc construit une entropie qui porte son nom. Considérons deux sources. La première source émet les symboles ABCD avec des probabilités égales. La deuxième source émet les symboles avec des probabilités différentes. Ici, on aura une probabilité du symbole A égale à 1,5, une probabilité du symbole B égale à 1/4 et des probabilités des symboles C et D égales à 1/8. On se demande quelle source produit le plus d'informations. Ces considérations sur la meilleure manière de transmettre de l'information avaient déjà été mises en œuvre dans le cadre du Morse, où l'on a pris en compte la probabilité d'émission de chacune des lettres de l'alphabet pour coder cette lettre de la façon la plus élémentaire possible. Dans le cas présent, comment déterminer le symbole qui va sortir en un minimum de questions ? Pour la source 1, il suffit de deux questions, A, B ou C, D, puis A ou B ou C ou D. Dans le cas de la source 2, le nombre de questions nécessaires peut être en moyenne plus faible. En effet, on peut demander « s'agit-il de A ?» et on a une probabilité élevée de réponse positive, auquel cas on a résolu le problème en une question. Si la réponse est négative, on peut cette fois-ci poser la question « s'agit-il du symbole B ?» et l'on a alors eu besoin de deux questions. Enfin, il reste à choisir entre C et D et l'on aura alors besoin de trois questions. P de A fois 1 plus P de B fois 2 plus P de C plus P de D fois 3 vaut 1,75. On a donc, par cette méthode de dichotomie, minimisé le nombre de questions nécessaires. Le nombre de questions apparaît comme l'information manquante et c'est une fonction de la probabilité P. Finalement, l'entropie de Shannon, H, est égale à la somme des informations manquantes, I de PI, pondérées par leur probabilité PI. Que peut-on dire sur la fonction I de P ? Cette fonction est nécessairement décroissante, plus la probabilité augmente, moins l'information manque. Et si la probabilité P est égale à 1, alors il n'y a aucune information manquante, I de P égale 0. Donc on a une fonction I de P qui a cette allure-là. Considérons la situation de deux événements indépendants I et J, dont la probabilité est donc PI fois PJ. Par exemple, l'arrivée aux courses et le tirage du loto. Si l'on s'intéresse à l'événement conjoint, l'information manquante sur l'événement conjoint doit être égale à la somme des informations manquantes sur chacun des deux événements. En conséquence, la fonction I de P est une fonction logarithme avec un préfacteur moins petit a, avec a positif, compte tenu du fait que l'information manquante est une fonction décroissante. On utilise habituellement petit a égale moins 1 sur log de 2, qu'on appelle communément bit, c'est-à-dire binary digit, c'est l'unité de mesure de la quantité d'informations. Je vous invite à étudier cette diapositive si vous voulez être convaincu par l'additivité de la fonction I de P. Regardons maintenant comment mesurer l'information dans un certain nombre de situations élémentaires. Dans le cas d'un tirage à pile ou face, P égale 1,5, une question suffit, l'information est de 1 bit. Dans le cas d'un dé à 6 faces, il faut 3 questions, la probabilité est égale à 1/6 et l'information manquante est de 2,56 bits. Pour l'alphabet, 5 questions, P égale 1/26 et l'information manquante est de 4,7 bits. Enfin, pour un jeu de 52 cartes, la probabilité est de 1/52, l'information manquante est de 5,7 bits. Ainsi, H est égal à la somme des PI I de PI avec I de PI égale moins A log de PI et petit a égale 1 sur log de 2. La fonction H, décrite dans l'article de Shannon de 1948, mesure en quelque sorte la surprise associée à la découverte de l'information. Au-delà du cours de physique statistique, la théorie de l'information a des enjeux importants. Citons l'entropie d'un signal, l'entropie d'une image, les stratégies de codage, les codes correcteurs d'erreurs. Gibbs a en quelque sorte anticipé les travaux de Shannon en proposant en 1878 une entropie S égale moins K somme des PI log de PI, dont je rappelle qu'elle mesure la quantité d'informations sur l'état microscopique d'un système macroscopique. Nous allons maintenant revenir sur une idée introduite dans le premier amphi, à savoir la maximisation de l'entropie. Qu'en est-il sur un système isolé ? On cherche donc à maximiser S égale moins petit a somme des PI log de PI, avec une contrainte qui est que PI est une probabilité. En conséquence, somme des pays égale 1. On doit donc résoudre un problème de maximisation sous contrainte. Et comme vu dans l'amphi 2, on adopte la méthode des multiplicateurs de Lagrange, c'est-à-dire qu'on maximise S sur petit a plus alpha fois la fonction grand F pour toutes les distributions pi. Il en résulte que pi est égal à exponentielle moins alpha moins 1, c'est-à-dire une constante que l'on appelle 1 sur w. On retrouve le fait que pour un système isolé, les probabilités sont égales à l'inverse du nombre de microétats. Par ailleurs, pour être en adéquation avec l'entropie de Boltzmann S égale K log de W, on identifie A égale K. Regardons maintenant le problème de maximisation dans le cas de l'équilibre thermique. On doit toujours maximiser l'entropie de Gibbs, mais cette fois-ci, à la contrainte somme des pi égale 1, s'ajoute la contrainte somme des PIEI égale valeur moyenne de E. On doit maximiser cette fois-ci S sur K plus alpha fois la fonction F1 plus bêta fois la fonction F2 par rapport à tous les PI. Ceci conduit à PI égale exponentielle moins alpha moins 1, comme pour le système isolé, multiplié par exponentielle moins bêta EI, c'est-à-dire le facteur de Boltzmann. Et l'on a vu qu'on était alors capable d'identifier bêta égale 1 sur KT par comparaison avec les notions de thermodynamique. À l'équilibre thermique s'introduit la notion d'énergie libre. En effet, pour le système en contact avec le thermostat, on cherche à maximiser l'entropie totale égale à l'entropie du système plus l'entropie du thermostat. Or, l'entropie du thermostat, elle est égale à moins E sur T. En conséquence, maximiser S, c'est aussi maximiser la fonction F égale E moins TS. Or, il est facile de montrer que S est égal à K log de Z plus bêta valeur moyenne de E. En conséquence, l'énergie libre F s'identifie à moins KT log de Z. On est alors capable de retrouver l'équation d'état du gaz parfait. En effet, en thermodynamique, la pression P s'écrit comme moins la dérivée de l'énergie libre par rapport au volume, à nombre de particules et énergie fixée. Or, F est égal à moins KT log de Z, grand Z est égal à 1 sur factoriel grand N, V sur lambda cube puissance grand N, avec lambda de T, la longueur d'onde thermique. Il en résulte que PV égale NKT, la fameuse équation des gaz partout. J'aborde maintenant la notion d'équilibre osmotique. Nous avons vu que lorsque l'on considère l'échange d'énergie entre deux sous-systèmes d'un système isolé, l'équilibre correspond à l'égalité des paramètres bêta définis comme la dérivée du logarithme du nombre de microétats par rapport à l'énergie. Ceci est cohérent avec la définition d'une température T égale à d rond S sur d rond E. On peut généraliser cette notion à l'échange de particules. Cette fois-ci, on va introduire un paramètre gamma égal à la dérivée du logarithme du nombre de microétats par rapport au nombre de particules, avec un signe moins pour être cohérent avec les grandeurs introduites auparavant en thermodynamique. On introduit un potentiel chimique mu égal à gamma sur bêta. Ainsi, mu est égal à moins t fois la dérivée de l'entropie par rapport au nombre de particules. Ainsi, un équilibre thermique et osmotique correspond à la situation où la température et le potentiel chimique sont fixés par un réservoir d'énergie et de particules, de sorte que pour le petit système, la valeur moyenne de l'énergie et la valeur moyenne du nombre de particules sont fixées. Cette notion de potentiel chimique est très utile dans tout un ensemble de problèmes de thermodynamique. Si les potentiels chimiques de deux systèmes sont égaux, alors ils n'échangent pas de particules en moyenne. Si par contre le système 1 a un potentiel chimique plus élevé que le système 2, alors il va lui céder des particules. Ces considérations permettent d'étudier tout un ensemble de problèmes tels que celui de la pression osmotique. Considérons le problème de la maximisation de l'entropie dans le cas d'un équilibre thermique et osmotique. On applique la même méthode. Cette fois-ci, les contraintes sont toujours la somme des PI égale 1, la somme des PI EI égale valeur moyenne de E, mais en plus, somme des PI NI égale valeur moyenne de N. On doit introduire trois paramètres de Lagrange, alpha, bêta et gamma, associés aux trois fonctions F1, F2, F3, et on doit maximiser S sur K plus alpha F1 plus bêta F2 plus gamma F3 par rapport à toutes les distributions de probabilité PI. Il en résulte que PI est égal, comme pour l'équilibre thermique à exponentielle alpha moins 1 que multiplie exponentielle moins bêta EI, mais cette fois-ci multiplié par exponentielle moins gamma NI. En introduisant par identification avec les résultats de la thermodynamique bêta égale 1 sur KT et gamma égale moins bêta mu, il en résulte que la probabilité PI s'écrit exponentielle moins bêta fois EI moins mu NI, ce qui vient généraliser la distribution de Boltzmann-Gibbs et s'introduit un facteur de normalisation sous la forme 1 sur Z grand G. Il s'agit d'une fonction de partition généralisée qui, cette fois-ci, est une fonction non seulement de la température bêta, mais aussi du potentiel chimique mu. On peut montrer que moins KT log 2ZG est égal à E moins TS plus mu n, c'est-à-dire le grand potentiel J de la thermodynamique. Ce tableau résume les différentes situations physiques qui ont été étudiées. Le cas d'un système isolé, le cas d'un système à l'équilibre thermique et enfin le cas d'un système à l'équilibre thermique et osmotique. On a successivement fixé l'énergie. Dans le cas d'un système isolé, l'énergie ainsi que le nombre de particules et le volume sont fixés. Dans le cas d'un système à l'équilibre thermique, c'est la température qui est fixée plutôt que l'énergie. Et dans le cas de l'équilibre thermique et osmotique, c'est la température et le potentiel chimique qui sont fixés, tandis que l'énergie et le nombre de particules peuvent fluctuer. Pour un système isolé, on doit maximiser l'entropie. Pour un système à l'équilibre thermique, on doit minimiser l'énergie libre, F. Et pour un système à l'équilibre thermique et osmotique, on doit minimiser le grand potentiel J. La probabilité des micro-états est donnée pour un système isolé par 1 sur W et pour les systèmes à l'équilibre par une distribution de Boltzmann-Gibbs faisant intervenir un facteur exponentiel de moins bêta EI ou exponentiel de moins bêta EI moins mu NI. Enfin, on identifie S égale K log de W pour le système isolé. L'énergie libre F s'identifie à moins KT log de Z pour un système à l'équilibre thermique. Et le grand potentiel J s'identifie à moins KT log de ZG pour un système à l'équilibre thermique et osmotique. Je conclurai en disant que l'on a retrouvé, à l'aide de la thermodynamique statistique, les concepts de la thermodynamique macroscopique, à savoir les potentiels thermodynamiques, l'énergie libre, F, l'enthalpie dans le cas d'un système à l'équilibre et mécanique, ce dont je n'ai pas parlé ici, et le grand potentiel J dans le cas d'un système à l'équilibre thermique et osmotique. Mais la physique statistique nous a donné par ailleurs beaucoup plus d'informations. Elle nous a fourni une vision microscopique qui nous permet de comprendre et de calculer explicitement les grandeurs qui interviennent en thermodynamique, telles que l'entropie, la pression, la température, le potentiel chimique. Et elle nous permet aussi de mesurer les fluctuations, ce dont la thermodynamique est incapable.